c'est une bien étrange aventure qui arrive à Calogrenant, l'un des chevaliers de la Table Ronde. Traversant la forêt de Brocéliande, il voit soudain apparaître un monstre farouche, mi-homme, mi-animal, qui lui demande ce qu'il cherche. Comme Calogrenant lui explique qu'il est un chevalier en quête d'aventure, le monstre réplique
« Inutile d'aller plus loin. Va droit devant toi. Tu arriveras devant une fontaine à l'ombre d'un arbre gigantesque. À côté, tu trouveras une pierre sur laquelle tu jetteras un peu d'eau de la fontaine. Alors se lèvera une tempête si violente qu'il te faudra beaucoup de chance pour t'en sortir indemne. »
Calogrenant, curieux de voir ce prodige, se rend donc à la fontaine et fait ce que lui a recommandé le monstre. Une terrible tempête éclate aussitôt, au sein de laquelle surgit un cheval terrifiant, monté par un gigantesque cavalier qui se jette sur Calogrenant, fend sa lance et tue son cheval. À son retour à l'ogre, Calogrenant raconte cette aventure au chevalier du roi Arthur. Tous n'ont alors qu'un désir, aller voir de plus près cette fontaine fantastique. Mais Ivanhoé, un cousin de Calogrenant, décide en lui-même de se rendre avant les autres, en forêt de Brocéliande, afin de venger son cousin. Le voilà donc à son tour, auprès de la fontaine. Comme Calogrenant, il déchaîne une effroyable tempête et voit surgir un redoutable cavalier. Mais, contrairement à son cousin, Ivanhoé parvient à mettre le cavalier en fuite. Il le poursuit au triple galop, mais voilà que le cavalier se faufile à l'intérieur d'un château par une petite porte dérobée. Ivanhoé pousse son cheval, se glisse lui aussi par la porte, le cœur battant. C'est alors qu'une trappe s'abat sur son cheval et le décapite. Voilà Ivanhoé par terre, dans la poussière, et prisonnier. Apparaît alors une jeune fille. Elle lui donne une bague capable de le rendre invisible. Puis, elle le conduit dans une grande salle où il peut se reposer un peu après cet épuisant combat. Quelques minutes plus tard, des gardes apparaissent et fouillent la pièce à la recherche de l'homme qui a battu leur maître. En vain, bien sûr, puisqu'Ivanhoé est aussi invisible qu'un fantôme. Cependant, lorsqu'il aperçoit la femme du chevalier qu'il a tué, il s'empresse d'ôter la bague pour se rendre visible. Car la dame est si belle qu'il en est immédiatement tombé amoureux. Il parvient à la convaincre qu'il n'a tué le chevalier que pour se défendre et qu'elle a besoin de lui pour protéger le château et la fontaine. Finalement, elle se laisse persuader et accepte même de l'épouser. La malheureuse ignore les grands malheurs qui l'attendent. Car pendant ce temps, les chevaliers d'Arthur sont arrivés à leur tour auprès de la fontaine enchantée. Ils déclenchent la tempête et un mystérieux chevalier apparaît qui n'est autre qu'Ivanhoé, le nouveau chevalier de la fontaine. Ivanhoé fait connaître son identité à ses amis et les accueille solennellement au château où les réjouissances durent plusieurs jours. Au moment du départ, les chevaliers parviennent à convaincre Ivanhoé de repartir avec eux. Sa femme accepte en y mettant une seule condition, qu'il soit de retour avant un an. Hélas, Ivanhoé est si heureux de retrouver ses amis qu'il laisse passer la date fatidique. Et soudain, au beau milieu d'un repas de fête, une jeune fille, montée sur un cheval noir, apparaît. Elle déclare devant toute l'assistance « Ivanhoé est un traître qui a trompé ma maîtresse. Elle m'envoie pour lui dire qu'elle ne veut plus jamais revoir ce chevalier menteur. » Fou de chagrin, Ivanhoé s'enfuit dans la forêt. Il déchire ses vêtements et erre comme une âme en peine, ayant totalement perdu mémoire et raison. Après des semaines d'errance, enfin, il voit une grande fontaine à l'ombre d'un arbre gigantesque. Immédiatement, tous ses souvenirs reviennent. Il se rappelle avec désespoir la femme qui l'a trahi. Que doit-il faire pour regagner sa confiance? Se comporter en noble chevalier? Sans doute. Mais cela suffira-t-il? En tout cas, Ivanhoé n'a peur de rien. Un jour, il sauve la vie à un lion et l'animal devient immédiatement et définitivement son ami, le suivant dans toutes ses aventures. Tout le monde désormais vante le courage de celui qu'on appelle le chevalier au lion. À quelque temps de là, venant à passer en forêt de Brocéliande, il déchaîne la tempête en versant de l'eau sur la fameuse pierre. Sa chère épouse, qui demeure toujours au château de la Fontaine, terrifiée par la violence de l'ouragan, envoie aussitôt chercher le chevalier au lion, cet homme invincible dont on parle de tous côtés. Il est le seul à pouvoir la sauver. Tandis que la tempête fait rage, des coups sourds retentissent à la lourde porte du château. La porte s'ouvre, livrant passage au chevalier au lion. Et les deux époux, qui se reconnaissent au premier regard, tombent dans les bras l'un de l'autre. Ainsi se terminent les épreuves de Messire Ivanhoé. Merlin l'Enchanteur lui-même n'est pas à l'abri du danger. Ses dons de magicien lui ont révélé l'existence d'une jeune fille très belle qui vit en forêt de Brioc, en Bretagne, de l'autre côté de la mer. Merlin s'y rend donc. Dès que ses regards croisent ceux de la jeune fille, il sait, car Merlin sait tout, qu'il deviendra son prisonnier. Pourtant, il ne s'enfuit pas. La jeune fille le salue et lui dit aimablement « Celle qui connaît le secret de toutes les pensées vous protégera de tous les dangers. » Merlin lui répond en souriant « Je vous remercie. Mais moi-même, je peux soulever dans les airs un château assiégé rempli de chevaliers ou marcher dans l'eau sans me mouiller. » Admirative, la jeune fille s'exclame « En voilà des merveilles. Oh, s'il vous plaît, apprenez-moi quelques-uns de ces tours et je serai votre fidèle ami pour le restant de vos jours. » Merlin se laisse fléchir et lui enseigne quelques tours. Plusieurs fois, il revoit la jeune fille, qui s'appelle Viviane, et, de jour en jour plus amoureux d'elle, il lui révèle la plupart de ses secrets. Un jour, il la trouve en larmes. Elle lui dit d'une voix tremblante « Tu ne m'aimes plus. Si tu m'aimais, tu m'apprendrais ce dernier tour que j'aimerais tant connaître. » Merlin soupire. De quel tour s'agit-il ? Celui qui permet de garder quelqu'un prisonnier pour toujours, sans mur et sans chaîne. Vaincu, Merlin murmure « Je vois bien que tu veux faire de moi ton esclave. Mais mon amour pour toi est si grand que je ne peux rien te refuser. » Puis, lui ayant révélé son dernier secret, il tombe dans un profond sommeil. Alors, Viviane trace un cercle magique autour de lui et, lorsque Merlin s'éveille, il comprend qu'il est son prisonnier à jamais. C'est ce qu'il explique un jour à Messire Gauvin, venu jusqu'en forêt de Brioc pour tenter de délivrer l'enchanteur. « Nul ne me verra plus jamais, sauf celle qui me retient prisonnière ici, derrière un mur invisible. » Stupéfait, Gauvin se lamente. « Ces paroles me rendent malade de chagrin. Comment annoncer cela au roi Arthur qui vous aime tellement ?» Le magicien soupire. « À chacun sa destinée. Nous ne nous reverrons jamais. Quittez cette forêt et n'y revenez pas. Adieu, fidèle Gauvin. » Plus personne, jamais, ne reverra Merlin l'Enchanteur. Un soir de Noël, un étrange chevalier apparaît à la cour du roi Arthur. Il est vert de la tête aux pieds et son cheval lui-même est vert. Il prononce d'une voix forte. « Je cherche un preux chevalier qui ait le courage de s'opposer à moi. Si je le trouve, je le laisserai frapper le premier. Je lui rendrai son coup après qu'une année soit écoulée. » Dans un silence de mort, Messire Gauvin se lève. Tout le monde sort donc dans la cour du château. Le chevalier vert tend sa hache à Gauvin, qui lui porte aussitôt un coup d'une violence si terrible que la tête du chevalier tombe par terre. Ce qui se passe ensuite dépasse tous les prodiges. Le chevalier vert se baisse, ramasse sa tête et la montre à la foule. Puis les yeux s'ouvrent et la bouche dit « Dans un an, Messire Gauvin, je vous attends à la chapelle verte pour vous rendre votre coup. et le chevalier saute en selle, tenant toujours sa tête sous son bras. Un an après, tandis qu'il erre à la recherche de la chapelle verte, Gauvin demande son chemin aux portes d'un château. Le châtelain, aussitôt, lui offre l'hospitalité en lui disant « La chapelle verte se trouve tout près d'ici. Vous avez donc le temps de vous reposer un peu. Voici ce que je vous propose. Demain matin, je partirai chasser. Lorsque je reviendrai, je vous offrirai mon butin et vous me ferez cadeau de tout ce qu'on vous aura donné dans ce château. » Gauvin accepte. Lorsque le moment est venu pour lui de quitter le château, la châtelaine lui offre, en cadeau d'adieu, une ceinture verte qui, dit-elle, rend invulnérable celui qui la porte. Gauvin, pensant au combat qui l'attend, la remercie avec effusion. Et lorsque le châtelain lui offre le renard qu'il a tué, il se garde bien de parler de la ceinture. Seulement une surprise l'attend à la fontaine. Le chevalier vert n'est autre que le châtelain qui l'a si bien reçu. Le combat s'engage. Lorsque le chevalier vert brandit sa terrible hache, Gauvin connaît un instant d'effroi, puis il se rappelle la ceinture. Il n'a rien à redouter. Et en effet, lorsque la hache s'abat en sifflant sur son cou, il s'en tire sans une égratignure. Le chevalier vert lui dit alors « Vous souvenez-vous de notre accord? Pourquoi avez-vous dissimulé la ceinture verte au lieu de me la remettre, comme je vous ai offert le renard que j'ai tué? Vous n'avez pas tenu parole. » Alors Gauvin se lamente. « J'ai trompé mon hôte, j'ai perdu mon honneur de chevalier. » Mais le chevalier vert lui dit en riant, « Vous reconnaissez si honnêtement vos fautes que je vous pardonne, messire Gauvin. » Une fois rentré à l'ogre, Gauvin raconte sa peur et sa honte. Cependant, parce qu'il a fait preuve de courage et de franchise, il obtient l'acquittement du roi Arthur. Un des chevaliers les plus fidèles à la reine Guenièvre se nomme Lancelot. Le jour où la reine est enlevée par un roi cruel qui s'appelle Méléagant, l'impétueux Lancelot vole aussitôt à son secours, prêt à risquer sa vie. Après bien des épreuves et des combats, il parvient enfin au pont qui mène à l'endroit où la reine est emprisonnée. C'est un étroit pont de métal qui enjambe un cours d'eau bouillonnant. Aussi affûté que la lame d'une épée scintillante, aussi long que deux lames, il porte le nom de pont de l'épée. Lancelot ne s'arrête pas devant un tel obstacle. Prenant appui sur les genoux, les mains et les pieds, il franchit le pont sans prendre garde aux blessures que lui inflige la lame et parvient ainsi au donjon où demeure l'intraitable Méléagant. Celui-ci décide aussitôt d'affronter Lancelot en un combat sans merci. Ah, s'il connaissait la bravoure de Lancelot, il ne serait pas si fanfaron. Malgré ses blessures, Lancelot le bat à plate couture. Il lui épargne cependant la vie et prend le chemin du château en vainqueur pour libérer la reine. Mais Méléagant est mauvais perdant. Il exige qu'un autre duel l'oppose à Lancelot dans l'année qui suit. Et comme il est également mauvais joueur, il fait aussitôt enlever Lancelot et le jette dans un cachot où il compte le garder jusqu'au jour du duel. Heureusement, Lancelot parvient à s'évader avec la complicité d'une femme à qui il promet de revenir à temps pour le duel avec Méléagant. Il regagne la cour du roi Arthur où il arrive au beau milieu d'un tournoi qu'a organisé le roi en l'honneur de la reine Guenièvre. Sans une hésitation, il baisse la visière de son aume et se précipite avec ardeur sur le lieu du tournoi. L'un après l'autre, il jette tous ses adversaires à terre. Tous tremblent de peur lorsque c'est leur tour d'affronter le chevalier inconnu. Quant aux damoiselles, elles rêvent toutes de l'avoir à leur côté. En vain, hélas. Car à peine le tournoi terminé, le mystérieux chevalier disparaît comme par enchantement. Lancelot, tenant parole, est retourné au château de Méléagant. Cette fois encore, il bat son ennemi. Et cette fois, il met fin définitivement à la vie de cet homme cruel. Un autre encore des chevaliers du roi Arthur a pour nom Perceval. Sa mère, qui est veuve, l'a élevé en espérant qu'il n'entendrait jamais parler de chevalerie, car c'est dans un combat de chevalerie qu'elle a perdu son mari. Cependant, bon sang ne saurait mentir, Perceval, un jour, rencontre un homme qui accepte de lui apprendre les règles de la chevalerie et l'art de combattre honnêtement. Un soir qu'il est reçu par un vieux roi, il assiste au cours du dîner à une scène étrange. Une damoiselle passe devant lui, tenant une coupe d'or ornée de pierres précieuses qui étincellent avec tellement d'intensité qu'elles éclipsent la lumière des chandelles. Perceval, troublé, n'ose demander ce que cela signifie. Il obtiendra pourtant la réponse à sa question. Le lendemain, après avoir quitté le château, il rencontre une jeune fille qui lui demande « Seriez-vous par hasard allé au château du roi pêcheur ?» Perceval lui décrit le château d'où il vient et l'homme qu'il y a reçu. Alors la jeune fille s'exclame « C'est bien lui !» Il a été blessé lors d'un combat et depuis, il ne peut se tenir debout. Parfois, il se fait porter dans un bateau et il pêche. C'est pourquoi on le nomme le roi pêcheur. Mais dites-moi, avez-vous vu le Saint Graal ? Perceval répond, « Je ne sais, mais j'ai effectivement vu une coupe plus étincelante que le soleil. Je n'ai pas osé demander d'explication. C'était bien le Saint Graal. Si vous aviez posé la question qui vous brûlait les lèvres, le roi aurait immédiatement été guéri et il aurait retrouvé la souveraineté sur son peuple qu'il a perdu en commettant une faute grave. » Stupéfait, Perceval se remet en selle et s'enfonce dans la forêt, plein de regrets. De ce jour, il accomplit un grand nombre d'actes héroïques. Tout le pays retentit bientôt du bruit de ses exploits, mais Perceval n'en a cure. Il n'a de cesse d'avoir retrouvé le Saint Graal. 5 années durant, il va errer à travers la Grande-Bretagne, en vain. Sans doute, l'honneur de retrouver le Saint Graal est-il réservé à un autre. Un jour, bien des années plus tard, au moment où les chevaliers s'apprêtent à s'asseoir à la table ronde, entre dans la salle un vénérable vieillard et un jeune chevalier. S'adressant au roi, le vieillard explique que le jeune chevalier est le prince Galahad qui a trouvé le Saint Graal. Puis il conduit le jeune homme à la place restée vide, celle qui est réservée aux chevaliers dignes de retrouver le Saint Graal. Sur cette chaise, Merlin avait autrefois gravé les mots « Siège dangereux ». Or, aujourd'hui, l'inscription qui apparaît en lettres d'or sur la chaise dit « Ceci est le siège du noble prince Galahad ». Tandis que le jeune homme prend place, le vieillard disparaît. Au même moment, à la grande stupeur des chevaliers, un terrible grondement se fait entendre. Et une lumière plus pure que celle du soleil où flotte le Saint Graal pénètre dans la pièce. Puis, la coupe disparaît dans un nuage doré, tandis que la lumière surnaturelle demeure dans la salle. Alors le roi Arthur se lève et remercie Dieu du grand honneur qu'il leur a fait. Puis, à la suite de Gauvain, tous les chevaliers font serment de partir immédiatement à la recherche du Saint Graal. Le roi est triste, soudain. Il dit à ses amis, « Mes seigneurs, j'ai le pressentiment que nous ne nous réunirons plus jamais dans cette salle. » Le roi a raison. Plus rien, jamais, ne sera comme avant. À la suite d'une fausse accusation contre la reine Guenièvre, des conflits terribles vont opposer le roi, Gauvain et Lancelot. Mortellement blessé dans un combat, le roi mourant remet son épée à un chevalier en lui ordonnant « Prenez mon épée et jetez-la dans le lac, le plus loin possible. » Le chevalier obéit. Étrangement, lorsque l'épée plonge dans l'eau, on n'entend aucun bruit. Aucune vague ne se forme. Puis soudain, un bras surgit au-dessus de l'eau, saisit l'épée et la fait tourner 3 fois avant de disparaître dans les profondeurs mystérieuses du lac. Alors, apparaît une barque qui se dirige en silence vers la rive. 3 gentes d'armes en descendent. Elles viennent chercher le roi mourant et le transportent dans la barque qui disparaît bientôt dans le crépuscule.